Bonjour à chacun ce matin. Et ce matin, nous commencerons par lire le texte qui nous servira de fil conducteur. Un épisode qui est bien connu dans le livre des Actes. Et je lis donc ce texte. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches, en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision, un objet qui ressemblait à une grande nappe, attachée aux quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'examinais attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Pour la deuxième fois, la voix s'est faite entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Cela est arrivé trois fois, puis tout a été retiré du ciel. Je vais peut-être prendre la télécommande. Voilà. Et voilà qu'à l'instant même, trois hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et ils se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Il s'agit là d'un récit. Et c'est celui que Pierre, devenu apôtre, est obligé de faire de ce qu'il vient de vivre à Césarée. Césarée, à 120 km de Jérusalem. À 120 km de l'endroit où il se trouve aujourd'hui, Jérusalem. C'est le chapitre 10 qui précède, qui donne la chronologie précise des événements de ce récit dans le livre des Actes. Mais ce chapitre 11 que nous venons de lire qui suit relate le moment où Pierre est en position difficile. Il est alors obligé de raconter pour se justifier. Obligé d'expliquer ce qui s'est réellement passé depuis qu'il a quitté Jérusalem. Pourquoi est-il obligé de le faire? Vous voyez sur cette carte, Pierre est en fait parti de Jérusalem pour traverser la Judée et la Samarie. Vous voyez le nom de ces provinces et puis au-dessus, il y a encore la Galilée. Il n'est pas parti seul, il est envoyé avec Jean et ils sont allés visiter les premiers disciples dispersés en Judée et en Samarie. Alors pourquoi se sont-ils dispersés? Parce qu'une grande persécution a été orchestrée contre ses premiers disciples, à laquelle Saul, qui s'appellera Paul plus tard, prend d'ailleurs une part très très active. Alors Pierre et Jean vont donc les visiter, ses premiers disciples, et quoi de plus normal? D'autant plus que ce n'est pas croyable ce qui est en train de se produire. Même les Samaritains, sont en train de faire bon accueil à l'annonce de l'Évangile. Même cette population de seconde catégorie dans l'esprit des Juifs de Jérusalem est en train de réagir positivement à l'annonce de l'Évangile. Et Pierre et Jean sont donc envoyés par les apôtres vers la Samarie, car l'Église de Jérusalem se sent en quelque sorte responsable de la façon dont les choses se passent. Ils sont en définitive en mission pour aller se rendre compte par eux-mêmes du fruit que porte l'annonce de l'Évangile. Et voilà le tableau de la situation. Petit retour en arrière. Il y a tant de choses qui se sont passées ces derniers temps, ces dernières années, dans cette cocotte minute qu'est Jérusalem pour Pierre. Le pire, la crucifixion. Le meilleur, la résurrection. L'impensable, la venue de l'Esprit de Dieu et puis le baptême de milliers de gens à Pentecôte. Alors ensuite, le découragement aurait pu découler de la persécution que l'Église subit au fur et à mesure qu'elle grandit. Et en effet, Pierre et Jean, qui font équipe depuis le début, au moment où cet épisode a lieu, ont déjà fait de la prison. Et puis n'oublions pas, Étienne a été lapidé. Et pourtant, ces persécutions, elles ont provoqué un phénomène inattendu. C'est la dispersion des disciples, obligés de fuir Jérusalem parce qu'ils sont en danger. Et cette dispersion devient en fait un vecteur de diffusion de l'Évangile un peu partout. Et c'est parmi les premiers, on trouve Philippe, on va le retrouver lui-même d'abord en Samarie, au nord de Jérusalem, et puis un peu plus tard, on va le retrouver au sud-ouest, sur la route de Gaza. Et Pierre et Jean, d'une certaine façon, vont passer, après Philippe, hein, sur ses traces dans cette province. Envoyés donc dans cette région par l'église de Jérusalem, il semble que Pierre y ait fait lui-même des allers-retours. Il y avait déjà eu là-bas cette fameuse rencontre avec Simon le magicien, qui était impressionné par les apôtres, qui voulait absolument obtenir du pouvoir de leur part. Et Pierre et Jean étaient ensuite, comme le dit Acte 8, 25, retournés à Jérusalem en passant par beaucoup de villages de Samarie et en communiquant la bonne nouvelle. Et cette période, c'est une période incroyable dont Luc nous dit dans Acte 9, 31, chapitre qui précède, je cite, « que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur, et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Une véritable, donc, success story. Et sur le chemin que Pierre parcourt à nouveau dans cette région de Samarie, tout semble presque évident et facile. Tout. Il guérit d'abord un homme, vous avez la ville de Lydda, on dit aussi Lydde. Il guérit d'abord un homme à Lydde, qui était malade depuis 8 ans, paralysé. Il ressuscite ensuite un peu plus loin à Jaffa, que l'on nomme aussi Jopé. Il ressuscite Tabitha, vous vous rappelez de cet épisode. Et tous ces miracles, finalement, convainquent un grand nombre de personnes dans les régions traversées. Et Pierre, à ce moment-là, il est en train de vivre une vie de plénitude, incroyablement couronné de succès, et tout s'accomplit de façon apparemment miraculeuse. Mais c'est là, c'est au moment où Pierre fait une pause dans cette ville de Jaffa, en bord de mer, qu'il va se passer quelque chose qui va profondément le perturber. Pierre, c'est quelqu'un de simple, pêcheur de métier, habitué aux odeurs de poisson, plus ou moins frais le poisson, donc plus ou moins odorant. Et il va aller chez quelqu'un dont le métier suppose aussi de supporter des odeurs fortes, un tanneur, c'est-à-dire un artisan qui travaille les peaux des animaux morts. Et chez Simon le tanneur, ça sent mauvais, c'est sûr. Pierre loge là. Et vers midi, nous dit le texte du chapitre 10, il monte sur le toit pour prier. Et là, Pierre tombe en extase. Il est littéralement transporté en dehors de lui-même. Et je lis. J'étais dans la ville de Jaffa, je relis ce passage. Et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision, un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit, « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est faite entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Cela est arrivé trois fois, puis tout a été retiré du ciel. Trois fois. Alors Pierre, nous le savons, ça n'est jamais celui qui dit oui tout de suite. Pierre discute, souvent. Il conteste, encore plus souvent. Tous trébucheront, lui avait dit Jésus, avant d'être arrêté par les Romains. Pas moi, avait répondu Pierre. Tu me renieras, lui avait prédit Jésus, je ne te renierai pas, avait répondu Pierre. Il faut décidément répéter les choses à Pierre pour qu'il les assimile. Cette fois, c'est encore trois fois qu'il faut qu'il entende ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Alors c'est un volontariste, il a un caractère entier, et ce ne sont pas forcément d'ailleurs des défauts. Mais là encore, et c'est beaucoup lui demander, il faut qu'il change de point de vue radicalement. Ce qu'il est demandé là maintenant, c'est d'élargir son horizon, sa vision des choses. Pierre est devenu, sans le souhaiter vraiment, un leader au moment où cet épisode se déroule. Il exerce ses responsabilités dans un certain bain culturel. Il est d'origine juive. Il est devenu apôtre, c'est-à-dire envoyé par le Christ lui-même. Il a baigné dans sa culture d'origine. Et dans cette culture, il était déjà tellement difficilement entendable que Christ soit le Messie annoncé. Mais lui, il a fait le pas, ce caractère entier que nous lui connaissons. Il a fait le pas, il a fait ce choix de reconnaître Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Pour autant, même s'il a déjà fait beaucoup de chemin, il en a encore beaucoup à faire. N'oublions pas la situation, il est en Samarie, en terre a priori hostile. On rappelle que les Galiléens, quand ils allaient sur Jérusalem, ne pouvaient pas espérer obtenir de l'hospitalité dans cette province de Samarie. On leur offrait pas de dormir à la maison. Ils faisaient le trajet, ils se débrouillaient pour traverser le plus vite possible cette province qui n'était vraiment pas accueillante. Alors il est dans cette province hostile, mais il a déjà fait beaucoup de chemin, il est ouvert, vous le voyez, à la possibilité d'autres réalités. D'ailleurs, il les constate, ces autres réalités, même la Samarie accueille. Mais là, quand même, ce qu'il lui demandait, ça fait beaucoup. Le sens de la vision qu'il reçoit à ce moment-là ne lui apparaît absolument pas. Et dans le chapitre qui précède, Luc rapporte textuellement que Pierre restait perplexe sur le sens de la vision. Tu et mange. Qu'est-ce que ça signifie? Tous les animaux dans le même sac? Les purs, les impurs? Et on voit bien Pierre se gratter la tête devant cette vision. Alors tirons le fil pour nous. Ce que nous apporte à nous aujourd'hui cet épisode de la vie de Pierre, c'est la chose suivante. Oui, nous avons nous aussi, sans doute, en devenant chrétiens, changer nos visions du monde, nos conceptions, grâce à ce que Jésus est venu nous révéler de la vraie nature, de la relation que Dieu veut nouer avec nous. Oui, nous avons changé, mais ce n'est pas fini. Ce travail de transformation n'est jamais terminé, une fois pour toutes. Nous sommes en formation continue, en transformation continue, en élargissement permanent de notre vision des choses. Et nous ne sommes pas arrivés au bout de ce travail, il y a encore beaucoup à apprendre. Pierre a sans doute vécu, plus que beaucoup d'êtres humains sur cette planète, une succession de bouleversements intérieurs. Mais son apprentissage continue, au moment même où il vole de succès en succès. Il n'est pas au bout du parcours. Nous ne sommes pas au bout du parcours non plus. Et cet encouragement à être toujours en mouvement, c'est plus tard celui de Paul, qui écrit aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est à ça que nous sommes aussi appelés, comme Pierre y est appelé à ce moment-là. À une bonne cinquantaine de kilomètres de Jaffa, une autre personne a vécu de grandes transformations et ne sait pas qu'elle va en vivre d'autres. Il s'agit de Corneille, un gradé de l'armée romaine qui commande environ 80 hommes et que l'on retrouve au bord de la Méditerranée, à Césarée, où il est basé. Et cet homme, il a une caractéristique tout à fait importante. Il n'est pas indifférent à la spiritualité. On pourrait même dire qu'il est en recherche. Il a entraîné dans sa démarche toute sa famille, ses serviteurs, et sans doute aussi quelques-uns de ses soldats. Et Luc le rattache alors à ce que l'on appelle les craignants de Dieu. Alors, les craignants de Dieu, ce sont des non-juifs qui pourtant manifestent une adhésion à la foi juive et peuvent participer à des fêtes. Et par exemple, lors de la dernière Pâque de Jésus à Jérusalem, les craignants de Dieu sont montés à Jérusalem pour essayer de le rencontrer. Donc ce sont des gens qui ont un intérêt, une ouverture. Et Corneille est un craignant de Dieu, il a même développé une pratique de prière personnelle et il a pris l'habitude de donner de l'argent. Et c'est ces libéralités, quelque part, qui sont liées à sa foi. Ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est sur le fait que Corneille est un homme en mouvement. Il s'est rapproché de Dieu, il le cherche avec détermination. Et c'est un homme qui est disponible au changement. Et c'est parce qu'il est disponible, ouvert, prêt, qu'il peut devenir un instrument pour quelque chose qui le dépasse largement et qu'il ne soupçonne même pas. Un jour ou deux avant que Pierre ne soit perturbé par cette vision étrange, c'est Corneille qui a été visité et invité à aller chercher Pierre pour l'amener de Jaffa à Césarée. La visite d'un ange, c'est déjà pas commun. Mais ce qui est plus important encore que la forme de cette visite, c'est cette reconnaissance de la foi de Corneille qui réside dans les mots qui lui sont adressés. Que lui est-il dit ? Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Et Corneille ainsi, par ces mots très brefs mais très forts, il est conforté dans sa démarche de vie et dans sa recherche. Et c'est sans doute pour lui un jour vraiment particulier. En somme, Dieu a préparé parallèlement Corneille à Césarée et Pierre à Jaffa à se rencontrer. Il a construit la rencontre qui va se révéler très décisive pour la suite de l'Église elle-même. Il a préparé Corneille, un homme ouvert, disponible, en recherche. Il a préparé Pierre un jour ou deux plus tard, qu'il a fallu bousculer par une vision un peu étrange, où tous les animaux purs et impurs sont rassemblés, ce qui dans sa culture est inimaginable, et avec une injonction bizarre, tue et mange. Tue et mange. Je l'ai rappelé, le film précis des événements, c'est le chapitre 10 du livre des Actes qui le raconte. Et dans le chapitre 11, on voit Pierre reprendre ce qui lui est arrivé, mais c'est bien dans le chapitre 10 que l'on voit ces petits changements successifs par lesquels va passer Pierre. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, Pierre réfléchit encore à la vision qu'il a eue, mais maintenant, il est suffisamment perturbé pour devenir disponible et pour entendre ce que lui dit l'Esprit. Et il va vivre trois décalages. Premier décalage. Pierre réfléchissait encore à la vision. Pierre descendit et dit à ses hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors, Pierre les fit entrer et les logea. Premier décalage dans la vie de Pierre. il loge des non-juifs. Il les fait entrer chez lui. Et ça, c'est vraiment pas ce qui se fait à l'époque. C'est vraiment pas dans les usages, c'est à contre-courant. Tuer mange a commencé à faire son effet. Deuxième décalage. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Voyez l'engagement de Corneille, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain ». Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Deuxième décalage dans la vie de Pierre. Il entre chez l'étranger. Il accepte d'entrer dans l'intimité de Corneille et se tue et mange, continue à faire son effet. Dieu m'a montré, je suis en train de comprendre, qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Troisième décalage dans la vie de Pierre, Corneille va lui raconter sa propre vision et conclure d'une façon tellement simple sur sa propre attente. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et en face d'une telle disponibilité, ce « tue et mange » est devenu une évidence pour Pierre. Et que dit-il alors ? En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous voyez le bout de chemin que vient de faire Pierre avec ses trois éléments successifs ? C'est énorme et en très peu de temps. Ça commence avec une vision qui le perturbe, mais ça le fait réfléchir jusqu'à une évidence qui s'impose pour qu'il puisse dire des choses comme ça dans la maison d'un étranger. Dieu ne s'adresse pas à quelques-uns mais à tous, et je ne peux pas décider, moi, Pierre, qui le mérite et qui ne le mérite pas. Et nous ? Il faut mesurer le saut dans l'inconnu que fait Pierre en trois jours. Il faut mesurer comment il écarte les limites de sa propre culture pour envisager l'inimaginable. Non, Dieu ne parle pas qu'aux Juifs de la dispersion en Samarie. Il s'adresse à tous les autres humains, samaritains ou non, juifs ou non, et finalement, chaque humain vaut son semblable. C'est ce que vient de dire Pierre. On sort ainsi de la famille, on voit plus large. Pierre a fait un bout de chemin, mais peut-être nous faut-il en faire un aussi. Nous arrive-t-il de penser que non, décidément, telle ou telle personne ne pourra jamais accéder à la grâce de Dieu ? Nous arrive-t-il d'établir des catégories du possible et de l'impossible dans ce domaine ? D'imaginer dans notre propre schéma culturel, parce que nous sommes tous dans un bain culturel d'une manière ou d'une autre, que certains de nos contemporains sont par définition hors d'atteinte de la grâce de Dieu, en quelque sorte hors sujet ? Et au nom de quoi pourrions-nous le décider ? Reconnaissons que c'est quelque chose de difficile à assimiler pour Pierre, lui-même. Il n'est plus le seul bénéficiaire potentiel de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires de la grâce de Dieu. Alors pour ceux d'entre nous qui sont issus de familles chrétiennes, il peut y avoir quelquefois le sentiment que nous sommes des héritiers en quelque sorte légitimes de la grâce de Dieu. Et c'est une grâce en soi que d'avoir vécu dans des familles chrétiennes. Il faut en être conscient. Mais au nom de quoi ne pas considérer comme tout aussi naturel que d'autres entrent dans cette lignée sans privilège d'ancienneté ou d'antériorité ? Vous connaissez la parole de Jésus qui est reprise dans l'évangile de Matthieu, cette parabole de l'ouvrier de la 11e heure, qui est devenue même une expression. L'ouvrier de la 11e heure est payé tout autant que l'ouvrier qui a commencé tôt le matin. Traduction, ceux qui ont connu la grâce à 6 heures du matin, à la première heure, ne valent pas plus que ceux qui l'ont connue à la 11e heure, c'est-à-dire à la fin de la journée de travail. Et la grâce est la même. Et c'est exactement ce que Pierre est en train de réaliser. Lui, l'héritier d'une tradition, se retrouve à égalité avec un centenier romain, un occupant qui plus est, qui est à des années-lumière de sa culture, et qui arrive là, maintenant, plus tard dans l'histoire, et qui pourtant va bénéficier de la même grâce. Alors résumons-nous, tout le monde a fait un bout de chemin dans cette histoire. Corneille, qui a pris le risque d'approcher une autre culture, une autre foi, qui s'est rendu disponible. Pierre, qui a changé son regard, un peu aidé, il est vrai, par un coup de pouce divin, mais on sait que Pierre, il est dur à bouger, donc il a besoin de sacrés coups de boutoir. Et puis, comme le précise au chapitre 10, les versets 44 à 46, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va faire l'autre partie du chemin. Et je lis ces versets 44 à 46. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait l'autre partie du chemin. En conclusion, je l'ai dit en introduction, lorsque Pierre raconte cet épisode, il est en devoir de se justifier devant ses compagnons, juifs comme lui, circoncis comme lui, qui lui adressent des reproches. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre va tirer avec eux les conclusions de ce qu'il vient de comprendre auprès de ceux qui lui demandent des comptes à Jérusalem. Et c'est le verset 17 du chapitre 11. Puisque Dieu, après avoir raconté son histoire, leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Notre vision de la grâce de Dieu peut être quelquefois étriquée, très étroite par rapport à sa réalité et à sa puissance. Qui sommes-nous, comme dit Pierre, pour la limiter ? Tout le livre des Actes montre comment Pierre aussi bien que Paul vont être les acteurs de l'élargissement à tous les hommes de la grâce de Dieu. C'est le sens même du livre des Actes que de montrer cet élargissement. Et c'est Paul qui écrit aux Galates, parce qu'à un moment donné, il y a besoin de rappeler cette vue large, aux Galates, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dès les débuts de l'Église, on va voir Pierre comme Paul aux prises avec cette lutte entre leur culture d'origine, leur propre culture d'origine, et les nouvelles perspectives qu'a ouvertes l'irruption de Jésus dans l'histoire. Et Jésus leur avait d'ailleurs prédit quelque chose qui n'a peut-être pas été entendu au tout début comme ça. Vous serez mes témoins à Jérusalem, pas de problème. Dans toute la Judée, c'est déjà un peu plus loin. Dans la Samarie, et oui, mais il y a les Samaritains. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les extrémités de la terre sont aujourd'hui connues, elles sont géographiquement bien plus loin que ce qu'on imaginait d'ailleurs à l'époque. Et les témoins du Christ les ont toutes atteintes, à peu de choses près. Où sont aujourd'hui les limites ? Si elles ne sont plus géographiques, ne sont-elles pas plutôt dans l'idée que nous nous ferions de qui mérite et qui ne mérite pas d'être adopté par Dieu et habité par son esprit ? J'ai quelques lignes à vous lire, très brèves, d'un livre que je vous recommande, de Frédéric de Coninck, Être le sel de la terre dans un monde en mutation, et qui insiste beaucoup sur ces rapports entre culture et dépassement de la culture. Voici ce qu'il écrit en quelques mots. Les préjugés construits par notre culture d'origine sont en fait comme des prisons. On peut penser être à l'abri, en considérant tout ce qui est extérieur comme impur. Mais c'est précisément cela qui crée des limites. Il nous est ensuite bien difficile de le surmonter et d'aller voir plus loin. Il est impossible d'oublier d'un seul coup les jugements hâtifs dont nous avons affublé les autres. L'ouverture commence en général par des fissures qui s'élargissent peu à peu. Alors puissions-nous être, comme Pierre, toujours disponibles pour que des fissures puissent s'élargir en nous et laisser passer le message de la grâce, dont nous ne sommes en aucun cas les seuls bénéficiaires. Amen. Je vous propose...